y compris de très nombreux anonymes, Frédéric Agnès, Benoît Cristal et Henri Dreyfus.
Ces soldats ont perdu 4 frères d'armes. Impossible de contenir leur émotion au passage du cortège funéraire ce midi. Une tristesse infinie aussi chez ces femmes, proches du maréchal des logis Antoine Serre, parti à 22 ans seulement. Elles étaient aussi dans la cour d'honneur des Invalides pour la cérémonie officielle cet après-midi, avec des centaines d'autres anonymes, des militaires et les familles des soldats morts au Mali. Pendant 10 longues minutes, au son pesant des tambours, les 13 cercueils sont amenés. À l'extérieur, ils sont nombreux rassemblés devant l'écran géant installé pour le public.
Il y a plein de monde pour exprimer notre reconnaissance à des gens qui se battent pour nous, loin de chez nous.
C'est des gens qui ont donné leur vie pour la France. Aujourd'hui, il est temps de les remercier.
Reposez. Hop.
Leur rendre hommage, s'incliner devant leur sacrifice, les mots choisis par le chef de l'État qui a rappelé les circonstances de leur mort, l'accident d'hélicoptère alors qu'il traquait des terroristes.
13 enfants de France étaient tués sur le coup. Ils étaient morts en opération pour la France, pour la protection des peuples du Sahel, pour la sécurité de leurs compatriotes et pour la liberté du monde.
Dans cette cour, 200 collégiens invités par l'Élysée, venus spécialement de la ville de Pau, qui a perdu 7 de ses soldats.
C'était très émouvant parce qu'il y avait des enfants, il y avait des bébés, il y avait des familles qui étaient tristes, qui ont perdu leurs proches. Et du coup, c'est très triste, c'est pas facile.
Des mots d'enfants pour décrire l'indescriptible, la douleur de ceux qui ont perdu un mari, un fils.
Pour nous, c'était un moment très fort. Vous savez, ça ne nous rendra pas notre fils comme les 12 autres familles, mais on avait besoin de cet hommage. On avait besoin de cette présence à la fois de la famille. L'armée, c'est aussi une famille. Et puis des Français.
En reconnaissance de leur sacrifice, les 13 soldats ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur.
L'autre titre de l'actualité, ce sont bien sûr ces intempéries qui se sont abattues sur plusieurs départements du Sud-Est. Nous reviendrons dans un instant sur les inondations et leurs conséquences, mais partons tout de suite dans le village des Mets, dans les Alpes de Haute-Provence. La commune est célèbre pour ses immenses rochers qui la surplombent. À la suite des pluies diluviennes des derniers jours, un morceau de rocher s'est effondré sur des habitations cet après-midi. Le point avec Jérôme Garraud et Annie Bazar.
Au cœur des décombres, les recherches se poursuivent ce soir. À l'aide de chiens, de torches, les 80 pompiers avancent entre ces blocs massifs. 3000 mètres cubes de roches au total. Opération de déblaiement et de sauvetage pour trouver d'éventuelles victimes. Car 3 maisons ont été détruites par l'éboulement. 2 autres sont endommagées. Nous sommes au village des Mets, cerné par cette falaise appelée les Pénitents et dont les rochers atteignent 114 mètres de haut. C'est précisément l'un de ces blocs qui s'est écroulé cet après-midi vers 16h15. 2 personnes blessées et les habitants du quartier évacués, mis à l'abri dans cette salle polyvalente.
C'était le pénitent qui s'est coupé sur toute la hauteur et qui a glissé et qui s'est arrêté contre la maison. Mais il a quand même, juste avant, il y a un petit bâtiment qui l'a tout arraché, enfin, qui n'existe plus le bâtiment.
D'après la préfecture, cet éboulement a été provoqué par les fortes pluies des derniers jours qui ont effrité la roche.
Dans 3 autres départements, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et le Var, le bilan des intempéries est très lourd. 6 morts, 1 disparu et des dégâts très importants dans des communes qui se relevaient à peine des inondations de la semaine dernière. Laurent Aubaine.
Du côté de Roquebrune-sur-Argence, la rivière a encore beaucoup de mal à rester dans son lit. Des digues ont cédé et les eaux ont tout submergé alentour. Parce qu'il est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie en quelques heures. Hier soir dans Cannes, on n'entendait plus que les alertes lugubres. La population est invitée à rester chez elle, car les eaux sont partout et n'ont rien épargné. Ni les halls d'immeubles, ni les parkings. Pourtant, certains ont encore la tentation de sortir pour sauver un véhicule. pour rentrer chez soi, par simple curiosité parfois. Il est tombé jusqu'à 1,50 m d'eau par endroit. Et ce matin, les constatations sont terribles. Les terres maraîchères et agricoles, des zones industrielles et touristiques ont été submergées. Elles ont isolé des maisons, noyé les cultures, mais semble-t-il, dans ce secteur épargné les hommes, même si par endroits, les dégâts sont très importants. Et depuis le ciel, ce sont des eaux boueuses à perte de vue jusqu'au bord de la mer au loin. Et si les routes et les carrefours se trouvaient encore sous les eaux à mi-journée, la circulation a repris normalement sur les autoroutes de la région.
C'est l'une des communes qui avait déjà été inondée la semaine dernière. Hier, Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes, a été à nouveau frappée par les intempéries. Il est tombé en 3 heures, l'équivalent de 2 mois de pluie. Sur place, David Desarrojo, Jean-Philippe Eckett et Christophe Moutou.
Englouti sous les eaux, le toit de cette voiture se distingue à peine, abandonné dans ce tunnel par un automobiliste pris au piège. Une dizaine d'hommes, comme Dominique Gustave, sont mobilisés depuis 4 heures du matin pour évacuer 5000 mètres cubes d'eau.
On a un camion qui est de ce côté, qui est en haut sur l'autoroute. On a un autre camion qui pompe aussi sur l'autoroute. Et on a 2 motopompes qui sont de ce côté.
Plus de 15 heures sont nécessaires pour tout évacuer et rouvrir la route. Devant l'ampleur des dégâts, la mairie a mis en place une cellule d'urgence. Des dizaines de bénévoles sont venus proposer leur aide aux sinistrés.
Vous pensez revenir demain ou vous êtes occupé, vous êtes d'accord? Là par exemple, c'était aide au nettoiement, il y avait besoin de nettoyer de la boue, la cave était inondée. Pour certains ici, c'est la 2e fois en une semaine.
Toute la journée, près de 600 agents de la ville et du département ont prêté main forte bénévolement. Comme ici, dans le quartier de la Napoule.
Moralement, ça touche un peu parce que demain, ça peut être nous. Donc c'est très important, on est vraiment bénévole et on vient très volontiers. On compte pas nos heures.
C'est vraiment réconfortant, si, si. Moi, je les remercie beaucoup. En plus, en amusant, ils sont gays. Et puis bon, ça nous a bien aidés aussi moralement.
L'heure est au bilan, y compris chez les commerçants. Ce libraire a fait ses comptes pour les déclarer aux assurances. Il a déjà perdu près de 50 000 euros de matériel.
Le plus embêtant, ça va être sans doute l'informatique, les caisses, peut-être aussi les frigos. Après les magazines, bon...
Des guichets sont déjà ouverts en préfecture pour recueillir les premières demandes de classement en état de catastrophe naturelle.
C'est précisément en voulant porter secours à des sinistrés que 3 membres de la sécurité civile ont trouvé la mort la nuit dernière. Leur hélicoptère qui venait de décoller de Marignane s'est écrasé. Quelques minutes plus tard, une enquête sur les causes de l'accident a été confiée à la gendarmerie. Sur place, Pierre-Emmanuel Chinardet, Pauline Lefrançois et Annie Bazard.
Rassemblés, en silence, devant la caserne de Marignane, collègues pompiers et amis de Norbert Savournin sont abasourdis par sa disparition. Stéphane, son frère, est l'un des rares à trouver les mots pour lui rendre hommage.
Mon frère, c'est un héros. Il est mort pour sauver des gens, et voilà, c'est un héros. La fin de son métier.
Il est parti toute une journée pour sauver 5 personnes. Il est rentré, on lui a demandé de repartir, et il s'est remis dans l'hélicoptère, il est reparti. Vous voyez, il s'est donné jusqu'à la mort.
À bord de l'hélicoptère, 3 secouristes. Norbert Savournin, pompier professionnel de 44 ans, spécialiste des sauvetages nautiques. Jean Gara, 40 ans, le pilote, très expérimenté après des milliers d'heures de vol dans l'armée. Et Michel Escalin, le mécanicien opérateur de bord chevronné de 47 ans. Ce dernier résidait à Bezouze, dans le Gard. Cette commerçante l'a vu hier, juste avant son départ en intervention.
Moi, en partant, je pensais rester tranquille cet après-midi, mais il faut aller secourir ceux qui ont déjà morflé la semaine dernière. Voilà ce qu'il m'a dit.
Voici l'hélicoptère qui est parti de la base de Nîmes-Garon, à destination de Pertuis, dans le Vaucluse. Les 3 sauveteurs ont procédé à 15 d'élitreuillages. Ils ont ensuite rejoint la base de Marignane pour ravitailler, avant de redécoller, cette fois à destination du Var, pour une nouvelle mission de reconnaissance et de sauvetage. Mais quelques minutes après le décollage, l'appareil aurait heurté le sommet d'une colline avant de s'écraser ici, dans le massif de la Nerthe. Ce témoin a aperçu l'appareil avant l'accident.
J'ai jamais vu un hélicoptère en bas, comme ça. On dirait qu'il vous passait de devant. Il n'était pas haut.
L'hélicoptère volait-il trop bas? Les mauvaises conditions météo, la pluie et surtout le brouillard pourraient être à l'origine de la mort de ces trois sauveteurs qui recevront un hommage national dans les prochains jours.
Les 14 000 habitants de Brune-sur-Argence dans le Var avaient à peine fini de nettoyer les dégâts considérables causés par les pluies diluviennes de la semaine dernière. Mais comme vous le voyez sur ces images tournées par nos équipes cet après-midi, ils ont dû affronter un nouvel épisode d'intempéries ce week-end. L'eau est montée jusqu'à 1 mètre dans certaines maisons. Vincent Capu et Didier Laborde ont rencontré des habitants lassés et résignés.
Les habitants de Roquebrune-sur-Argence n'auraient jamais pensé vivre deux inondations si catastrophiques en l'espace d'une semaine seulement. Ce matin, le propriétaire de ce restaurant découvre une nouvelle fois son établissement sous l'eau.
Cette nuit, c'est monté à 6,10 m. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte la double peine. On essaie de comprendre et puis on va reprendre du courage pour pouvoir remettre en route. Mais oui, on est un peu désolé, oui, faut être honnête.
Cette famille d'agriculteurs se dit fatiguée de subir des intempéries de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes. Pourtant, elle n'envisage pas de quitter ses terres.
Ici, on a construit, ça fait depuis les années 70. On n'a jamais connu ça. On va aller où ? Les terres, elles sont hors de prix parce que c'est la Côte d'Azur. Je vais aller habiter dans le Nord, je vais quitter ma vie, ma famille, mes amis, tout ce que j'ai construit ici.
Dès qu'on voit de l'eau, ça y est, on ne dort plus, on surveille.
Vous avez pensé déjà à partir d'ici ?
Bien sûr, tous les jours. Tous les jours. Mais on ne peut pas laisser nos terres. C'est notre patrimoine, c'est notre pays, c'est... On ne peut pas.
Si elle le pouvait, cette habitante de Fréjus partirait définitivement de ce lotissement qui s'est retrouvé sous 1,30 m d'eau par endroit la nuit dernière. C'est la quatrième fois en 10 ans que sa maison est inondée.
On ne pourra jamais sortir d'ici, c'est-à-dire que les maisons sont invendables. Nous, on est inondés dès qu'il pleut. On est tous en train de payer un crédit. Et pour payer quoi ? Pour payer une maison qui ne vaut rien du tout.
La nuit dernière, les pompiers sont intervenus à 150 reprises dans le Var pour porter secours à des habitants lassés de voir se répéter ces inondations dévastatrices.
Autre département touché par ces intempéries et ces inondations, le Vaucluse. La rivière Lèze est sortie de son lit et a causé d'importants dégâts, notamment dans la commune de Pertuis. Baptiste Guenet et Henri Polamar ont passé la journée sur place.
Des routes coupées, des camions de pompiers abandonnés. Des champs transformés en marécages, réveil difficile pour les habitants de Pertuis.
Moi, je regardais au loin, c'est comme si c'était la marée, quoi, ça. Le désastre.
Pascaline avait emménagé il y a un mois. Après une nuit passée à l'hôtel, ce matin, nous la suivons alors qu'elle vient tout juste de rentrer chez elle.
Tout est foutu.
Le désespoir également chez cette famille d'éleveurs. Malgré les tentatives pour protéger leurs brebis, le constat est amer.
Je suis encore sous le choc. Les derniers agneaux sont éliminés hier matin et morts hier après-midi. Donc c'est des centaines de bêtes. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts.
La rivière, l'Aise, a débordé à cause d'amas de branches et de détritus charriés par l'eau. Hier, 120 personnes ont été évacuées. Comme Dany, 25 ans, coincé chez lui avec son enfant.
J'ai ouvert la baie vitrée, je suis passé par le petit muret là. Et je suis monté sur le toit, ils sont venus me récupérer sur le toit avec le petit de 3 mois.
Ouais, on a eu de la chance.
Ouais, on a eu pas mal de chance, parce que si je reste bloqué dans la maison, je pense que c'était cuit.
Après le choc du constat, vient le moment de nettoyer les dégâts. Le torrent a touché une cinquantaine de maisons.
C'était envahi, ben l'eau passait de partout quoi. On aurait dit une maison au milieu d'une étendue d'un raz-de-marée quoi.
Chez cette habitante, les voisins sont venus donner un coup de main.
On sait ce que c'est d'être inondé, on est complètement abattu. Et voir des gens qui viennent vous aider, ça remonte le moral.
Du baume au cœur, il en faudra, car pour tout remettre en état, cela va prendre des jours, voire des semaines.
Julien Arnaud reviendra sur ces nouvelles inondations dans le sud-est, dans le grand journal sur LCI. Rendez-vous à 23h, canal 26. Également dans l'actualité, plus de 340 stations-service fermées faute de carburant, de longues files d'attente dans les rares stations encore approvisionnées. C'est la conséquence des blocages de dépôts pétroliers en Bretagne et dans plusieurs départements de l'Ouest par des professionnels du BTP. Ils s'opposent à la suppression d'un avantage fiscal sur le gazole non routier qui est utilisé, vous le savez, par les engins de chantier. Un blocage qui intervient 3 jours avant le mouvement de grève lancé par plusieurs syndicats dans les aéroports, les transports en commun, mais aussi les écoles et les palais de justice. Qui fera vraiment grève le 5 décembre et quelles seront les conséquences concrètes? Justine Corbillon et Emma Vinzin.
Métro, boulot, dodo. Enfin jeudi, ce sera surtout dodo pour ceux qui peuvent rester chez eux.
On va dormir. Je vais dormir, toi.
Dormir chez moi, ouais, c'est mieux. Hein.
Ouais. Je vais pas aller au travail.
Non, je vais même pas essayer, je pense.
Car les transports seront très perturbés. À Paris, aucun tramway, presque pas de RER, seulement 2 métros sur 14. Dans les autres villes françaises, les prévisions de trafic ne seront annoncées que mercredi. Au niveau national, la SNCF a déjà annoncé la couleur. Aucun train disponible à la réservation du 5 au 8 décembre. Le rail à l'arrêt sur presque tout le territoire. La compagnie précisera demain les rares lignes en fonctionnement. Finalement, ceux qui prennent l'avion seront les moins touchés. 80% des vols devraient être assurés. Autre secteur mobilisé, la fonction publique. Avec en tête les professeurs des écoles, 70% pourraient faire grève jeudi.
Les enseignants du premier degré sont les perdants parmi les perdants de cette réforme. Si on calcule la retraite désormais à points sur l'ensemble de la carrière, on a une perte sèche entre 600 et 900 euros.
À l'hôpital, ce sont surtout les urgences en mouvement social depuis 8 mois qui devraient compter le plus de grévistes. Quant aux professions qui ne peuvent pas faire grève, comme les policiers, ils s'expriment autrement. Une centaine de CRS ont déposé ce matin casque et matraque pour protester contre la réforme des retraites. Un mouvement qui s'annonce général, car le secteur privé aussi se mobilise en masse. Plus de 1000 préavis de grève recensés chez les transporteurs routiers, dans la collecte de déchets ou encore chez EDF. Des coupures de courant sont annoncées, mais pas pour les particuliers, uniquement sur les bâtiments qui appartiennent à l'État.
À l'origine de cette grève, il y a donc le refus de la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Bonsoir Yannick Hézard.
Bonsoir.
Avec vous, nous allons essayer d'y voir un peu plus clair sur cette réforme. L'une des questions qui revient sans cesse, c'est ce fameux âge pivot préconisé par Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites. Cet âge est fixé à 64 ans. Expliquez-nous ce que cela change ou changerait concrètement.
Alors on va voir ça avec deux exemples très concrets. Paul et Chloé. Disons que ces deux personnes ont 44 ans. Mais il y a une différence, c'est que Chloé a commencé à travailler à 25 ans après avoir fait de plus longues études, alors que Paul, lui, a commencé plus tôt, dès l'âge de 19 ans. Si on décide de mettre en place un âge pivot, c'est-à-dire un âge à partir duquel on peut partir à la retraite en touchant 100% de sa pension, et si on instaure cet âge à 64 ans, regardez le résultat. On voit que Chloé va devoir travailler au total 39 ans, alors que Paul, lui, va devoir travailler au total 45 ans. Voilà pourquoi certains considéreraient ce système comme injuste.
Alors Yannick, des économistes, mais aussi Emmanuel Macron, rejettent cette idée d'âge pivot. Ils ne se focalisent pas sur l'âge de départ à la retraite, mais sur le nombre d'années durant lesquelles on a travaillé. Ça changerait quoi?
Eh bien, on va reprendre nos deux mêmes exemples. Si cette fois, on met donc en place une durée de travail, une durée de cotisation identique pour tout le monde et qu'on la fixe à 43 ans, par exemple. Eh bien, regardez, cette fois, ils ne partiront pas au même âge. Chloé va devoir travailler jusqu'à 68 ans, alors que Paul, lui, qui a commencé à travailler à 19 ans, va devoir travailler 43 ans et partir à 62 ans. D'autres personnes considéreraient cela comme logique, puisque Chloé a fait des études plus longues, mais on voit que ça pourrait finir par défavoriser ceux qui font des études supérieures.
Merci beaucoup pour cette explication nécessaire et très claire. Europa City, en région parisienne, une piste de ski en Picardie. À 4 mois des élections municipales, de nombreux projets divisent les habitants des régions concernées. Dernier exemple en date, en Loire-Atlantique, où un promoteur privé envisage de construire un surf-park à un bassin artificiel à 10 km seulement de l'océan. Un projet qui fait l'objet d'une guerre de tranchées au sens propre du terme. Reportage Arnaud Etcheverry et Bichente Akala.
Des vagues de 2,50 m parfaitement régulières. Du surf 7 jours sur 7 dans un bassin artificiel. Ces images ont été tournées aux États-Unis, mais elles pourraient bientôt arriver à Saint-Père-en-Ré, une petite commune de 5000 habitants en Loire-Atlantique. C'est en tout cas le projet de cet entrepreneur nantais.
Le bassin sera situé ici, donc il fait 200 mètres de long par 85 mètres de large.
Le promoteur veut également construire une plage, un restaurant, une école de surf et un parking. Une quinzaine d'emplois à la clé, coût du projet, 15 millions d'euros.
Ça reste un petit projet, hein. On a 4 hectares. Sur un terrain où vous voyez, on n'a rien à détruire, on n'a pas d'arbres à détruire, pas de haies. Voilà, c'est pour ça qu'on avait choisi ce terrain.
Le promoteur préfère la jouer modeste. Il faut dire que depuis un an, son surf park situé à moins de 10 km de l'océan déchaîne les passions.
C'est pas rien du mauvais tout.
Cet été, une vive altercation a opposé partisans du projet à des militants écologistes.
C'est des fachos.
Sur le champ où doit être construit le surf park, il y a même eu des affrontements violents.
Regardez ça.
6 mois ont passé et à l'heure du marché, le projet continue de diviser.
Je tiens pas à ce qu'on bétonne encore des terres, ça peut renvoyer. Voilà. On est près de l'océan, je pense pas que ce soit une bonne opération.
Tout ça, c'est pour l'emploi, ça peut être intéressant, c'est ce qu'il faut regarder.
C'est bien pour du surf, pour les enfants. Eux, ils aimeraient bien faire du surf.
Localement, la riposte s'organise. Les anti-surf parks ont créé une association et disent n'avoir jamais été consultés. Pour eux, le projet est d'un autre âge.
C'est un gaspillage énorme, et puis que ça n'a plus de sens à notre époque. Ça n'a plus de sens, on a l'impression d'être bloqué dans les années 50 ici à Saint-Père. On est encore dans les 30 glorieuses, là où on pouvait se permettre de gaspiller de l'énergie. Là, on ne peut plus gaspiller l'énergie, tout le monde le sait.
De son côté, la mairie sait qu'elle est en terrain miné. Elle a d'ailleurs fait creuser une tranchée tout autour du champ pour éviter une occupation du terrain par des opposants. À 4 mois des municipales, et alors qu'il compte se représenter...
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Le maire maintient le cap.
On a besoin d'une dynamique... Bon, territorial, on a besoin de tourisme, on a besoin de donner une nouvelle dimension à notre territoire.
Et vous irez jusqu'au bout ?
Je les supporterai jusqu'au bout. Je serai favorable au projet jusqu'au bout.
Le maire n'est pas au bout de ses surprises. Depuis quelques semaines, la contestation s'amplifie et elle vient désormais de l'extérieur de la commune. Car à moins de 4 km de Saint-Père-en-Ré, nous avons découvert une ZAD, une zone à défendre. Dans ces bois, des militants, une dizaine, se sont installés dans des cabanes, des tentes. Beaucoup viennent de Notre-Dame-des-Landes, située à moins de 40 km de là.
Ben, si les travaux commencent pour le surf park, on va se mettre devant, quoi, devant les anges, hein, quoi, pour faire appel aux gens de résister, pour sauver la terre. Quoi. Parce qu'on va gagner. En Bretagne, on gagne tout, on gagne toujours.
En Loire-Atlantique, il existe 3 autres projets, comme celui du surf park, tout aussi controversé. Leur avenir se jouera sans doute lors des prochaines municipales.
Vous faites peut-être partie des 6 millions de Français qui s'apprêtent dans les jours à venir à acheter un sapin pour Noël. Seriez-vous capable d'un simple coup d'œil en quelques secondes de distinguer un sapin naturel de son lointain cousin en plastique ? Pas si facile. 80% des Français optent pour un sapin naturel. Lequel des deux est le plus écologique ? C'est le grand format de ce 20h. Il est signé Victoria David, Ardoui Fergan et Vincent Pierron.
Dans les allées de cette jardinerie, la course au sapin est lancée. Pas toujours évident de se mettre d'accord.
Bien celui-là, moi.
Car dans les rayons, deux camps s'affrontent.
Sapin artificiel ou naturel ?
Nous, on prend que des sapins naturels.
Plutôt artificiel.
Le match est serré. Pour les départager, nous tentons un petit quiz. Lequel est le plus écologique ?
Le sapin artificiel, s'il est fait en plastique, c'est pas forcément très écolo.
L'artificiel est plus écolo.
Ça évite aussi peut-être de couper des arbres dans les forêts.
Pour avoir la réponse à notre question, prenons la route du Morvan. Un quart des sapins vendus en France poussent ici. Dans des champs de sapins et non pas des forêts. Les arbres de Noël sont cultivés sur ces terrains agricoles. Ils sont coupés 5 à 10 ans après leur plantation, selon la taille.
Oui, bien ici. Allez, doucement.
Frédéric Naudet produit des sapins depuis presque 35 ans. Autour de lui se dressent plus de 2 millions d'arbres. Tout le contraire, selon lui, de la déforestation.
Le sapin de Noël est un produit de culture. Donc, vouloir assimiler le sapin de Noël à un produit de déforestation, c'est un non-sens. Au bout de 10 ans, la fin du cycle de culture, on renouvelle complètement la plantation en replantant le même nombre de sapins que ceux qui ont été coupés.
Cette année, pour Noël, il va en couper 400 000. Des Normans pour la plupart, mais ce n'est pas son préféré.
Le Norman, il a quand même ce défaut, il sent un peu moins que les autres. Eh bien, on peut choisir un épicéa. L'épicéa, c'est vraiment le sapin de son enfance. On emmène ses enfants dans ses propres souvenirs à soi. C'est ça, le sapin de Noël.
Pour Frédéric Naudet, ça ne fait aucun doute. Ces sapins ne font pas de mal à la planète. Mais comment connaître leur impact exact sur l'environnement ? Nous avons fait un match. Pour gagner, il faut émettre le moins de carbone possible. D'un côté, le sapin naturel. Premier bon point, il stocke du gaz carbonique. Deuxième bon point, le transport. 70% des sapins sont français. Il parcourt donc peu de kilomètres jusqu'à chez vous. Troisième bon point, le sapin naturel est recyclé, souvent en bois de chauffage. Au total, ce sapin n'émet que 3,1 kg de carbone par an. De l'autre côté, le sapin artificiel, en plastique non renouvelable, souvent fabriqué dans des usines en Asie, puis importé. Résultat, il émet 8,1 kg de carbone par an, soit presque 3 fois plus que son concurrent naturel. C'est le grand perdant de notre match. Pour qu'il y ait égalité, il faudrait en fait conserver son sapin artificiel au moins 20 ans. Problème, personne ou presque ne le garde aussi longtemps.
On sait que le consommateur a envie de renouveler et de changer plus régulièrement son sapin. La durée de vie moyenne d'un sapin artificiel est plus de l'ordre de 4 à 5 ans.
Et pour réduire encore votre empreinte carbone, pensez au sapin en pot.
Idéalement, on le replante directement dans le jardin après les fêtes, après Noël. Le sapin, oui, aura une vie qui continuera derrière.
Palette que j'ai ramassée pour nous dans la rue ce matin.
Dernière solution, fabriquer soi-même son sapin. De la récup et un peu d'imagination suffisent pour que la magie de Noël opère, ou presque.
On dirait un vrai.
C'est hyper cool d'y croire.
Que diriez-vous à présent de partager les secrets d'une des plus belles cathédrales du monde ? Sa silhouette très inhabituelle est repérable à 50 km à la ronde. Une seule tour, du grès rose, pas de doute. Vous êtes bien au pied de la cathédrale de Strasbourg. Même si vous l'avez visité plusieurs fois, le reportage que nous vous proposons va vous surprendre, car nos journalistes ont eu un accès privilégié. Suivez nos explorateurs, Philippe Vogel, Laurence Lepierre et Eric Schins.
Durant des siècles, elle fut l'édifice le plus élevé de la chrétienté. Notre-Dame de Strasbourg, chef-d'œuvre de l'art gothique, avec son unique flèche. Pour arriver à son sommet, à 142 mètres, il faut emprunter ces escaliers étroits. Interdit au public. À cette hauteur, les détails sont invisibles du sol. Une dentelle de grès rose à découvrir.
On est dans une œuvre majeure et donc l'ornement est traité avec autant de soin qu'il soit très visible par le piéton ou qu'il soit quasiment invisible puisque allant chercher le contact avec le ciel.
Une flèche ouverte, bâtie en partie sur du vide pour limiter la prise au vent, une technique pour construire toujours plus haut. Sous la flèche, le beffroi abrite un des trésors de la cathédrale. 9 cloches avec pour chacune d'entre elles sa propre note. Toutes ont leur sonorité, celle-ci est en sol bémol.
Écoutez.
Le bourdon date du 15e siècle, un monstre de cuivre et d'étain pesant près de 2 tonnes. Le beffroi a été construit pour limiter les risques d'effondrement lorsque les cloches sonnent à toute volée.
On a construit cet espace immense dans lequel on a logé cette construction indépendante en bois, en chêne, pour que le mouvement des cloches ne puisse pas faire bouger la maçonnerie.
Une structure et des poutres aux dimensions impressionnantes. Juste en dessous, la nef de la cathédrale et ses vitraux, dont certains remontent à plus de 800 ans. Aux équinoxes de printemps et d'automne, le rayon vert fait son apparition. La lumière du soleil traverse alors le pied de Judas et vient frapper le Christ sur la chair. Officiellement, un pur hasard, mais pour les curieux, le mystère demeure.
Ce rayon qui vient de je ne sais où, je ne comprends pas moi-même.
Il aura fallu 4 siècles pour ériger la cathédrale jusqu'à son sommet. La Grande Rosace est considérée comme l'une des merveilles architecturales de l'édifice. Pour admirer sa géométrie parfaite, ses couleurs éclatantes, il faut s'aventurer dans des endroits dissimulés.
On a une porte en fait qui donne directement en face de la Rosace. C'est un endroit un peu exceptionnel, hein, très peu de personnes ont accès en fait à cet endroit. Là, c'est vrai que dès qu'on arrive devant cette rose, on a un instant en fait où on est parti dans ses pensées et on admire en fait le chef-d'œuvre en fait de ces bâtisseurs.
Une rosace pour représenter la création du monde, le ciel, le bleu des océans, la végétation et enfin les êtres vivants. Avec 35 mètres en contrebas, la plongée vers la nef est vertigineuse. Une cathédrale millénaire dont les premières pierres ont été posées en 1015. Pour remonter le temps, il nous faut descendre dans ses fondations et faire un peu de gymnastique. Le mur du millénaire, érigé il y a 10 siècles, porte encore les traces des premiers bâtisseurs.
Par exemple, sur ces blocs ici, on retrouve ce qu'on appelle des encoignures. Hein, c'est des creusements qui ont été faits dans la roche à l'époque où la roche était encore sur les falaises, qui était encore dans les Vosges.
Un peu plus loin, les vestiges d'habitations romaines. Le bassin baptismal date du IVe siècle.
La personne qui devait être baptisée et le prêtre vont tous les deux descendre dans le bassin, avoir l'eau jusqu'aux genoux. Et ça, c'était la mode classique de baptême à cette époque-là.
Dernier chef-d'œuvre, l'horloge astronomique, classée monument historique. À l'intérieur se cache un mécanisme d'une précision extrême, conçu au XIXe siècle, pour lequel il a fallu inventer des formules mathématiques. L'horloge calcule les planètes, et même au-delà.
Le cycle sur lui-même de la voûte céleste, donc le globe céleste, fait un tour complet en 15 000 et quelques années, c'est pour vous donner le degré de précision.
Non loin de l'horloge, une statue nous observe d'un air songeur. L'homme accoudé, autre mystère de la cathédrale. Un livre de grès rose, ouvert, sur 1000 ans d'histoire.
Eh oui, je vous l'avais promis, magnifique reportage. Je vous retrouve dans un instant pour votre mag et pour la météo d'Evelyne Delia. Nous irons à la rencontre d'Olivier, un instituteur un peu spécial. Il se déplace sur les routes de la Manche et du Calvados à bord d'une école roulante. Il s'occupe des enfants des dernières familles de Tziganes qui vivent dans des roulottes tirées par des chevaux. A tout de suite. Dernières familles de Tziganes qui vivent encore dans des roulottes tirées par des chevaux. En France, il existe 35 écoles camions comme la sienne. En dispensant ses cours, il a reçu en échange une belle leçon d'humanité. Portrait Michaël Guilleux, Florian Le Goic et Auton Esquitia.
Il y a parmi nos voisins ceux que l'on salue.
Bonjour, ça va ?
Oui.
Et ceux sur lesquels nos yeux ne s'arrêtent pas.
Moi, le premier, quand j'étais plus jeune... Ils habitaient pourtant tout près de chez moi, il n'y avait aucune relation. C'est deux mondes un peu parallèles.
Olivier a décidé de se retourner, d'aller rencontrer les gens qui vivent dans ces drôles de maisons que l'on appelle roulottes.
Et je t'appelle pour savoir où vous êtes, là, pour venir faire l'école. Près de l'église à Ussy. Ok.
Au tout début, je les ai cherchés. Parce que forcément, comme les parents ne savent pas forcément lire les panneaux, ils ne peuvent pas me dire le nom du lieu-dit ou le nom de la rue où ils sont.
L'instituteur a pris la route.
Je suis instituteur voyageur comme mes élèves.
Et à bord de son camion école, en venant faire cours aux enfants tziganes, il a reçu quelques leçons de vie.
On est en famille, on est bien. Bah, ce qui se passe demain, eh ben on verra. Pour l'instant, on profite de ce jour-là. Et demain, s'il faut bouger, on bouge. Mais du moment qu'on est tous là, bah, c'est vraiment ça le principal. Tout ça, j'ai découvert ça avec eux, ça c'est sûr.
Olivier s'occupe des dernières familles à vivre en roulotte à chevaux.
Allez, on y va les petits loups, en route. Tu mets une chaise là, Maya, tu veux ?
Voilà.
Oh, mais merci Malena, c'est gentil.
Ils sont français, comme leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents. Mais depuis deux générations et la disparition des écoles de campagne, ils n'allaient plus en classe.
C'est quoi ça, ici, là, pour faire avancer les bateaux, comme ça, alors ?
Depuis 10 ans maintenant, Olivier partage son temps entre une quarantaine d'élèves à qui il apprend à lire et à écrire.
Les enfants, on les connaît par cœur. Je vais pas dire comme si c'était les nôtres, mais on les a connus petits. Le fait de bien se connaître, dire bah, tiens, je vois que là t'en as un petit peu marre, du coup on va peut-être changer, on va faire la peinture. Ça facilite, moi, je pense, le travail.
Quand je vais travailler, je serai comme Olivier. Maître d'école. Ça, je vais pas me mettre en chauve. Comme ça, quand il y a des gens qui n'ont pas d'argent et puis qui veulent inscrire leurs petits, nous on les prend quoi. Comme ça je pourrai aider tous les autres.
Voilà, ça regarde papa avec les chevaux.
Il leur transmet son savoir sans essayer de les changer.
Moi aussi c'est tout un art d'élever des bâtins. Alors on est encore fiers de garder notre tradition. Chez Olivier, ils ont de l'école et moi je leur apprends une école aussi, toi. C'est la tradition des Mournouches, alors.
Papa.
Tu veux voir Olivier? On va voir Olivier, alors.
En apprenant à aimer leurs différences, il s'est fait adopter.
C'est comme le grand frère des Gitans, quoi, voilà. On peut y aller chez tout le monde. Tout le monde, Olivier, c'est sacré, c'est... Déjà.
Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça.
C'est... Enfin, là, ouais, je suis un peu... Ouais. Sympa.
Il y a des trucs tout petits, mais qui est fort, quoi. Voilà,
exactement, c'est... exactement. C'est en ça que ça dépasse le lien de maître d'école et de... qu'on peut avoir dans des classes ordinaires, quoi. Ils font presque partie un peu d'une seconde famille.
Un lien très particulier.
Mmh. Au départ, ce n'est pas un militant, juste un instituteur qui cherche à travailler autrement.
Dans les anciens parents d'élèves, comme dans la famille, c'était une surprise quand même. Il y a des parents d'élèves qui pensaient que c'était une sanction de m'envoyer bosser avec les gens du voyage.
Olivier, c'est... Il aime les gens, voilà. C'est tout simple. Peu importe, il faut qu'il arrive à s'intégrer là où on le met.
Olivier fait partie de ce que les Tziganes appellent gens de maison. Leçon après leçon, il a essayé de montrer que l'on gagnait toujours, à poser son regard sans porter de jugement.
La lettre s'appelle M et elle chante.
Il y a un an maintenant, il a convaincu les parents d'Engie d'inscrire leurs enfants à l'école. Cet après-midi, il décore avec sa sœur et les copains un soleil en osier réalisé par leur père.
Allez, on va le mettre. Allez, vas-y.
Cet art traditionnel, fierté des Tziganes, est aujourd'hui le symbole de leur école.
Ils vont à l'école comme nous, ils vivent comme nous. C'est juste la maison qui est différente. Pas rien qui change, en fait.
Même dans mes rêves les plus fous, je pense que j'aurais pas pu imaginer que ça se passe aussi bien. Je suis heureux pour Engie et Luna. Et je suis fier de ce qui se passe, de les voir aussi heureux avec des copains, des copines, voilà, comme tous les enfants, quoi.
Bonsoir, ma chère Evelyne.
Bonsoir, Gilles.
Votre météo est très attendue ce soir, notamment par ceux qui habitent dans le sud-est.
Bien sûr. Alors, la bonne nouvelle, ou du moins rassurante pour vous, c'est que les prochains jours seront calmes, avec même du soleil.
La météo avec l'assurance mobilité urbaine CIC. Utilisez en toute sérénité les nouveaux moyens de locomotion.
Aujourd'hui déjà, les précipitations étaient quasi inexistantes et vous aviez retrouvé, on le voit très bien, le soleil. Petit coup d'œil d'ailleurs du côté de Saint-Raphaël, dans le joli vieux port de Saint-Raphaël. Cet après-midi, plein de soleil et quelques 17 degrés, s'il vous plaît. Alors, pourquoi va-t-on avoir un temps calme et plutôt ensoleillé? Plutôt, hein, pas toujours, on va le voir. Eh bien, tout simplement, grâce à qui? Grâce à l'anticyclone qui vient, qui nous fait certes une visite, avec les perturbations qui le contournent. Et on a un tout petit peu d'instabilité tout de même qui va se mettre en place, pas tout de suite, hein. Mais demain matin, on aura ce qu'on appelle parfois des phénomènes de basse couche à cette époque de l'année, à savoir un temps calme, sec, mais avec beaucoup de brume, de brouillard, et même des brouillards qui pourraient être givrants dans la matinée entre l'Île-de-France et les Ardennes. À noter que vous aurez beaucoup de soleil toute la journée sur la Bretagne, sur le Cotentin, dans ces régions centrales, plus que le matin au pied des Pyrénées, avec donc ce petit système dépressionnaire sur l'Espagne qui devrait vous apporter quelques averses sur le Roussillon, et vous aurez du soleil dans le sud-est. Alors on va regarder la masse d'air, parce que justement, on est dans de l'air plutôt frais, on s'en aperçoit en ce moment, et regardez où est l'air beaucoup plus doux, plus chaud, il est en Méditerranée, et notamment sur la Corse. D'ailleurs, demain matin, c'est à Bastia qu'il fera le plus doux, pour ne pas dire déjà le plus chaud, avec quelques 10 degrés, partout ailleurs des températures fraîches, nous sommes en décembre avec quelques gelées, et puis dans l'après-midi, 19 degrés cette fois-ci, prévus pour Ajaccio, 17 il est vrai pour Nice, et puis sur les régions du Nord, entre 4 et 10 degrés, un peu de douceur tout de même pour les Bretons. Alors la suite, avec pour la journée de mercredi, toujours ces phénomènes de basse couche, donc pas mal de grisailles sur le nord-ouest du pays, toujours cette perturbation qui pourrait apporter un petit peu de pluie sur le Roussillon, et jeudi, en glissant vers la Méditerranée, peut-être jusqu'à la Corse, avec du vent, sinon toujours notre anticyclone qui est là, des températures très basses le matin, mais qui vont remonter sur les régions du Nord vendredi avec l'arrivée d'une perturbation. Donc ça va recommencer, un flux de sud-ouest donc redoux, dégradé nuageux pour la journée de vendredi avec toujours un temps sec près de la Méditerranée que vous conserverez samedi. Cette perturbation va se décaler. Dimanche, une beaucoup plus active devrait arriver par le nord-ouest. Donc toujours ce dégradé nuageux. Et puis lundi, ce qu'on appelle une traîne active avec beaucoup de vent d'ailleurs sur les côtes de la Manche. Et puis des averses, des orages et de la neige en montagne. Et bien justement, Gilles, pour terminer, on va respirer un bon bol d'air à la montagne. Regardez comme c'est magnifique. C'est à Val Thorens, plus d'un mètre cinquante. Sur les pistes, les petits vénards.
Avec l'assurance mobilité.